Les États-Unis ont repris leur frappe contre l'Iran cette nuit, mettant fin à 6 jours d'accalmie relative. Les discussions avec le Hamas et les médiateurs en cours au Caire progressent sur la question du désarmement, c'est ce qu'a déclaré un responsable diplomatique israélien. Le chancelier allemand Friedrich Merz a réaffirmé que Berlin ne soutiendrait pas de sanctions générales contre Israël. Et enfin, l'économie belge n'a enregistré aucune croissance au deuxième trimestre, une première depuis le Covid. Et on commence évidemment ce journal avec l'actualité entre l'Iran et les États-Unis. Les États-Unis ont repris leur frappe contre l'Iran cette nuit, mettant fin à 6 jours d'accalmie relative. Le commandement central américain a annoncé avoir mené à bien une vague intensive de frappes contre des dizaines de cibles du corps des gardiens de la révolution islamique en Iran. Et ce, au lendemain d'une attaque menée par cette force militaire iranienne contre les troupes américaines présentes dans la région à l'aide de missiles balistiques. Un communiqué du CENTCOM précise que les cibles touchées lors de ces frappes comprenaient des centres de commandement, des installations de missiles et de drones ainsi que d'autres sites militaires dans le but de réduire davantage les menaces que représente l'Iran et ses mandataires pour les forces américaines, le transport maritime commercial et les pays du Golfe. Un responsable du CENTCOM estime que l'ampleur des bombardements de la nuit était environ 2 fois supérieure à celle des jours précédents selon ce responsable. Des explosions ont été entendues dans les villes de Boucher et d'Abu Moussa, l'île de Kish et l'île de Keshm, selon la chaîne publique iranienne Press TV. À la Maison Blanche, Donald Trump a affiché sa détermination après avoir promis de frapper très durement l'Iran. Il a laissé entendre qu'une réponse plus importante pourrait suivre, tout en affirmant vouloir maintenir une porte ouverte aux discussions avec Téhéran. Le président américain examinerait actuellement un plan élaboré par le commandant du CENTCOM, l'amiral Brad Cooper, qui prévoit une campagne aérienne de 10 à 14 jours dont l'objectif est de porter un coup sévère aux capacités balistiques iraniennes. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth soutiendrait cette option tandis que Donald Trump hésiterait encore entre une offensive de grande ampleur et des frappes plus limitées afin de préserver une éventuelle reprise des négociations. Et puis justement, Donald Trump aurait vivement critiqué ses collaborateurs lors d'une réunion la semaine dernière en raison de sa frustration face à ses options militaires contre l'Iran et de son incapacité à conclure un accord pour mettre fin au conflit. Malgré les manifestations publiques de satisfaction quant au déroulement de la guerre, ni lui ni ses principaux collaborateurs ne sont satisfaits de la situation actuelle, c'est ce qu'a déclaré un responsable américain à NBC News. Ses collaborateurs ne parviennent pas non plus à s'accorder sur la voie à suivre, le responsable américain ayant déclaré « Après tout ce temps, il n'y a toujours pas d'unité. Le président est exaspéré », a-t-il déclaré. A donc NBC News, cet allié de Trump qui s'est entretenu avec lui ces dernières semaines. « Je ne pense pas qu'il pensait que ce serait aussi difficile d'amener les Iraniens à accepter un accord. Il n'y avait pas de véritable stratégie quant à la durée du processus ni aux mesures à prendre pour parvenir à l'objectif final », ajoute cet allié de Donald Trump. Et puis à Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, de son côté, a affirmé sur ABC News cette fois que Donald Trump maîtrise pleinement la guerre contre l'Iran et nie avoir influencé les frappes après leur rencontre à Washington. Je n'ai induit personne en erreur. Personne ne dit au président Trump ce qu'il doit faire, a déclaré Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu qui a révélé que les deux dirigeants avaient examiné 3 options concernant l'Iran: la négociation d'un accord plus large avec Téhéran, le maintien du blocus du détroit d'Hormuz ou une nouvelle opération militaire. Nous avons analysé ces 3 possibilités de manière ouverte entre amis et alliés, mais c'est sa décision, a-t-il déclaré. Le chef du gouvernement israélien s'est toutefois montré très sceptique quant aux intentions iranienne dans les négociations. Il ment et trompe constamment, il cherche toujours à gagner du temps. Interrogé sur un éventuel changement de régime en Iran, le premier ministre israélien a estimé que la République islamique était, je cite, plus faible que jamais, tout en refusant d'affirmer que le régime était sur le point de s'effondrer. Et puis un haut responsable sécuritaire israélien affirme de son côté que les Américains se préparent à quelque chose de bien plus important que tout ce que nous avons vu jusqu'à présent, je cite. D'après les éléments recueillis par Israël, les préparatifs américains témoignent d'une volonté d'apporter une réponse globale et ferme à l'escalade iranienne. Évoquant lui aussi le front iranien, le chef d'état-major de Tzahal, Eyal Zamir, a déclaré hier « La campagne sur front n'est pas encore terminée. Si nécessaire, nous saurons approfondir nos succès également sur sur le front iranien. En visite dans le sud du Liban, le chef d'état-major de Tsahal a également déclaré « Si nécessaire, nous étendrons nos opérations à d'autres secteurs. Nous ne nous retirerons pas des zones que nous avons conquises tant que la sécurité à long terme ne sera pas garantie. » Il a ordonné aux forces présentes au nord d'Israël de se tenir prêtes à reprendre immédiatement les combats. La chaîne de télévision Palestine Al-Youm, une chaîne affiliée au djihad islamique palestinien, rapporte qu'une annonce est attendue aujourd'hui concernant un accord sur la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza. Cette information semble faire référence à un accord entre le Hamas et les médiateurs qui devrait encore être approuvé par Israël pour entrer en vigueur. Selon la chaîne, cet accord prévoirait que le groupe terroriste mette ses armes lourdes en dépôt plutôt que de les détruire. Il ne précise pas quelle partie serait chargée de la garde de ces armes. Les armes légères du groupes terroristes ne sont pas mentionnés dans le reportage, un reportage qui ajoute que l'accord subordonnerait la question des armes à un retrait israélien total de Gaza et à la fin des frappes ciblées et des frappes militaires dans la bande de Gaza. Au vu des négociations passées, il est peu probable qu'Israël accepte ces conditions. Pourtant, selon un responsable diplomatique israélien, les discussions avec le Hamas et les médiateurs en cours au Caire progressent sur la question du désarmement. Nous continuons à faire avancer la mise en œuvre de la feuille de route qui offre une voie équilibrée et pragmatique pour l'avenir avec le démantèlement de toutes les armes et un transfert progressif des responsabilités afin de confier l'autorité totale au gouvernement technocratique. C'est ce que déclare ce responsable, soulignant qu'il n'y aurait aucune exception pour certaines armes ou certaines personnes. Une seule autorité, une seule loi, une seule arme, c'est ce que déclare ce responsable. La feuille de route en cours de discussion met en place un processus visant à éliminer tous les tunnels, les dépôts d'armes et toutes les installations de production d'armes, toujours selon ce responsable. Un responsable qui ajoute qu'il s'agit d'un processus global. Si elle est mise en œuvre, il n'y aura plus d'infrastructures terroristes à Gaza à l'issue du processus, affirme ce responsable. Le Hamas ne pourra pas contrôler les événements en coulisses, comme l'a fait le Hezbollah au Liban, fait voilà toujours ce responsable. Le Hamas n'aura aucun rôle à jouer, ni au premier plan, ni en coulisses, et toutes les armes, lourdes et légères, seront sous le contrôle total de la NCAG, en coordination et avec le soutien de l'ISF, dirigé par un général des forces spéciales américaines de garde 2 étoiles. C'est toujours ce que poursuit ce responsable qui fait référence au gouvernement technocratique palestinien et à la toute nouvelle force internationale de maintien de la paix. Un processus qui repose sur le principe de réciprocité. Lorsque le Hamas respectera un engagement, Israël répondra de la même manière. C'est un nouveau départ pour Gaza. Il a fallu beaucoup de temps pour en arriver là, mais le plan de paix global pour Gaza du président Trump a été notre fil conducteur, déclare-t-il, avec cette feuille de route pour conclure qui serait un accord unique en son genre qui concrétise le plan de paix de Donald Trump en une série de mesures que les Palestiniens et les Israéliens devront prendre pour ouvrir ce nouveau chapitre de paix, de prospérité et de sécurité pour Gaza, déclare donc ce responsable au Times of Israel. Des dizaines de soldats du bataillon Tsabar de la brigade Givati ont quitté sans autorisation la base de Zdeteman. C'était cet après-midi pour protester contre une décision de leur commandement. L'incident a été présenté par certains comme une rébellion au sein de l'armée israélienne. Selon les premiers éléments, la contestation est née après que le commandement du bataillon a fait retirer des pancartes et symboles liés à une tradition interne entre anciens et nouvelles recrues. Les soldats affirment que ces objets les accompagnés depuis les combats à Gaza et au Liban et représentaient ainsi l'identité et l'héritage du bataillon. En Europe maintenant, le chancelier allemand Friedrich Merz a réaffirmé que Berlin ne soutiendrait pas de sanctions générales contre Israël. Il a malgré tout émis des réserves concernant la politique du gouvernement israélien en Judée-Samarie. Lors d'une conférence de presse à Dublin, aux côtés du premier ministre irlandais Michael Martin, le dirigeant allemand a exposé sa position sur les éventuelles mesures européennes visant l'État hébreu. « Nous observons avec une grande inquiétude les activités du gouvernement israélien concernant les implantations en Judée-Samarie », a déclaré Friedrich Merz, précisant avoir fait part de ses préoccupations à plusieurs reprises à Benjamin Netanyahou lors d'entretiens privés, mais nous ne pensons pas que des sanctions générales contre Israël constituent la bonne approche, a-t-il ajouté. Direction la France maintenant, à Nanterre, un rabbin a été visé par des insultes antisémites dans un supermarché. David Nakache, rabbin du centre communautaire juif de Nanterre, a annoncé avoir déposé plainte après avoir été la cible d'insultes antisémites dans un supermarché de la ville. Les faits se seraient produits dimanche dernier dans le Lidl situé boulevard des Provinces françaises. Selon un communiqué du groupe d'opposition municipale Nanterre Ensemble, une cliente aurait traité le rabbin à plusieurs reprises de sale juif avant de lui demander de retourner en Israël. Et on termine ce journal avec l'actualité en Belgique. L'économie belge n'a enregistré aucune croissance au deuxième trimestre, une première depuis le Covid. L'économie belge a enregistré une croissance nulle au deuxième trimestre de cette année par rapport au premier et a donc stagné. C'est ce qui ressort d'une estimation flash de la Banque Nationale. Ce n'était plus arrivé depuis la crise du Covid en 2020. Par rapport au trimestre précédent, l'industrie et la construction ont enregistré une contraction. Le secteur des services a en revanche légèrement progressé. Globalement, la croissance atteint 0%. La stagnation n'est donc pas une surprise. La Banque Nationale avait déjà mis en garde à ce sujet. Par rapport au deuxième trimestre 2025, on enregistre en revanche une croissance de 0,5%. C'est la première fois depuis le deuxième trimestre 2020 et la crise du Covid que l'économie belge n'enregistre aucune croissance.